Bonjour, bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue à ce nouvel épisode de Ciné Brunch. Je suis moi-même Louis Laramé, accompagné comme toujours de mes deux co-animateurs, co-animatrices Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Et Jim Boulay.
Allô.
Comment allez-vous, vous autres?
Ça va super bien.
Oui,
mais oui, oui, on est en pleine forme.
Je suis content d'apprendre que tu es toi-même à chaque épisode.
Moi aussi.
Je suis moi-même à chaque épisode. Oui, je suis moi-même Louis Laramé.
Exactement.
À chaque épisode. Toujours très affable.
Et voilà. Le mot du jour.
Le mot affable? Non, c'était pas dans ma description de... C'est pas grave. Bon. qu'est-ce que t'as fait cette semaine, Jim? Ou plutôt, qu'as-tu à nous dire cette semaine?
Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Encore une fois, j'ai trotté sur les internets. Et ben en fait, si vous avez vu l'épisode de Comedians in Car Drinking Coffee qui est sur Netflix avec Jim Carrey, donc l'épisode avec Jim Carrey, vous saviez probablement que l'acteur Jim Carrey était aussi peintre. Et son studio de peinture est d'ailleurs assez impressionnant, mais cette fois-ci, semble-t-il que Jim Carrey s'est laissé aller à, disons, une nouvelle forme d'art qu'on pourrait appeler de l'art politique et satirique. Cette semaine, il a d'ailleurs décidé de rire de l'administration du gouvernement américain en publiant sur Twitter des photos de ses œuvres qui caricaturent M. Trump. Certaines sont assez osées. D'ailleurs, on le voit en train de faire des fornications avec, je ne nommerai pas, une dite ancienne actrice pornographique.
Ce voilà. Qui fait différence des allégations de fricotement avec des actrices porno très contemporaines.
Voilà, oui, c'est rien à voir en fait, Louis.
Sacré Jim. Jim Carrey, pas Jim Boulay.
Bien sûr. Ne pas confondre.
Merci beaucoup. Mélina, qu'est-ce que t'as fait, toi, cette semaine?
Moi, en fait, j'ai commencé une nouvelle série canadienne qui s'appelle Mary Kills People en anglais. En français, c'est Dr. Mary, mort sur ordonnance. Et c'est l'histoire d'une mère de famille qui est médecin urgentologue, mais qui pratique également l'aide médicale à mourir, mais de façon illégale. Et donc, c'est une série qui ouvre vraiment les discussions sur l'aide médicale à mourir, qui favorise les échanges. Et l'actrice principale, en fait, c'est la Montréalaise Caroline Davernas, qui, en plus d'avoir joué dans de nombreuses productions américaines, est aussi spécialisée en doublage. Donc, fait intéressant, c'est elle-même qui double sa propre voix pour la version québécoise qui est sur Série Plus. Donc, oui, original.
C'est quand même cool.
Ça s'appelle comment, cette série-là?
Docteur Marie, mort sur ordonnance.
Exactement.
Ah, bon.
Moi, cette semaine, je voulais me parler rapidement du backlash qui est en train de se faire contre le film Ready Player One, qu'on va probablement aller voir semaine prochaine. En ce moment, les internets sont en train de s'énerver le poil à une vitesse phénoménale sur les similarités quand même impressionnantes du roman face au mouvement Gamergate qu'on a vu il y a quelques années, qui était principalement... En tout cas, ça a commencé quand même correct sur l'éthique journalistique, mais ça a rapidement dégénéré dans un mouvement contre les femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Puis quand on parle du roman duquel est basé Ready Player One, c'est un roman qui parle énormément de jeux vidéo, particulièrement une culture très masculine qui date des années 80. Donc,
roman que tu as lu quelques fois, semble-t-il.
Au moins à deux reprises, parce que effectivement, il y a certains problèmes politiques en considérant les implications majeures, mais lu au premier degré, ça reste un bel échappatoire dans les jeux vidéo et la culture classique des années 80.
Eh bien...
Ouais, fait qu'à voir, j'ai bien hâte de voir ce film.
On va y aller pareil, même si le poêle des médias se lève sur Internet.
Ça, oui, ça se peut que souvent. Je me lève le poêle aussi. Là. Ça, c'est tout simplement, je pense que c'est ça qui va se passer. Fait que sur ces belles paroles... Donc, Mélina, cette semaine, t'as été voir un film de cheval?
Pas tout à fait, non.
Un film d'équitation. Non, un film...
Ça s'appelle... Je vais t'aider, Louis. Ça s'appelle Louise le cavalier sur son cheval de feu.
Bon, fait qu'il y a de l'équitation. Je sais pas... Non?
Ben, en fait pas du tout. Parce que...
pas du tout.
Pas du tout, non. En fait, c'est un genre de documentaire, si on veut, sur la danseuse québécoise Louise le cavalier. Donc, c'est aussi un jeu de mots.
Il n'y a pas de cheval là-dedans.
Non, c'est ça.
Cheval de feu.
Le cavalier.
je me sens plus brillant.
Voilà. Et honnêtement, à la base, j'aime beaucoup les documentaires, mais honnêtement, je vous dirais que tout genre confondu, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis le début de 2018. J'étais vraiment assise sur le bout de ma chaise, émerveillée, et les yeux me sortaient de mes orbites, comme on dit. Et honnêtement, c'est vraiment rare qu'un film m'a fait sentir autant de choses. Puis... d'entrée de jeu, là, je vous dirais, c'est pas juste un film pour ceux qui aiment la danse comme moi, c'est vraiment un film qui peut être merveilleux pour tout le monde d'aller voir.
Un film à éternuer pour tous.
Louis.
Ok, je vais aller, Louis? C'est bon.
C'est le moment où tu t'en vas dans le trafic.
Come on!
Donc voilà, comme Louis le disait, un film pour les gens qui éternuent. Et bref, pour ceux qui aiment les documentaires... Ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Ça va être à la Maison du cinéma toute la semaine. Et pour vous mettre le popcorn à la bouche, on va aller écouter la bande-annonce.
Elle incarne cette espèce d'inatteignable, de femme impossible à atteindre, comme un absolu.
Usually, the more you rehearse things, the easier they get. But it's like the exact opposite of Louise.
Ça marche. Tout ça marche pour moi. Je suis déchirée entre deux choses. Hein. Rendre les choses parfaites, ce qui est impossible, puis après ça, les laisser vivre. Il y a comme un plaisir et une beauté là-dedans. C'est comme ça que je veux vivre ma vie.
Donc, Louise Lecavalier, c'est une danseuse québécoise, en fait, qui va avoir 60 ans en octobre et qui est vraiment connue à l'international pour son style super intense et très physique. Puis, elle est devenue, en fait, l'icône de la compagnie de danse contemporaine La 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 Human Steps, qui avait été fondée par Édouard Locke. L'une des compagnies les plus reconnues internationalement. Est-ce que tu avais une blague à faire, Louis?
Pour son nom, je... La 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 Human Steps.
La 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 Human Steps.
OK, moi je... La 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 la...
Non,
la,
mais la, la... elle est vraiment ferrée en termes de Louise Lecavalier.
Oui, non, c'est le nom de la compagnie de danse qui me... Oh mon Dieu.
Excusez-la.
Ça t'a pris beaucoup de temps pour forger une si belle blague.
Oh!
Suivez le guide. Bon.
Bon, ben oui, c'est ça, La 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 Human Step. C'est vraiment une compagnie de danse qui a été vraiment reconnue internationalement, qui a fermé en 2015, si je me souviens bien. Et ils ont vraiment collaboré avec plusieurs artistes. Ils ont même collaboré avec David Bowie pour l'une de ses tournées et un de ses vidéoclips. Et au début des années 2000, en fait, Louise Lecavalier va quitter La 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 Human Steps, entre autres à cause d'une opération à la hanche. Et, fin intéressant, les médecins lui ont dit qu'elle ne retrouverait jamais la même flexibilité. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle est encore plus flexible qu'elle ne l'était à cette époque-là. Mmh. Et ça démontre vraiment qui est le personnage. Parce que c'est une personne qui a toujours cette volonté-là de dépasser ses limites, de se dépasser, de se repousser, de repousser ses limites. Donc, ça va vraiment avec le personnage. Et elle dit dans le documentaire... C'est beaucoup mental, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pense en général, et à partir du moment où on pense qu'on peut faire plus, on peut faire plus.
Fait vraiment une histoire de dépassement de soi, là, clairement.
De là, le cheval de feu, elle a vraiment, comme on pourrait dire, le feu sacré. Là. Et c'est ce qui rend ce documentaire-là, en fait, tellement inspirant et motivant. Et... on voit à quel point elle travaille fort, à quel point elle fournit des efforts intenses dans le but de toujours se dépasser. Puis je pense que c'est comme ça en tant qu'artiste que t'es constamment en évolution.
Oui, t'es à cheval sur les détails.
C'est ça. Oui.
Jim, dans le trafic.
Voilà. Donc, va faire un tour en calèche.
Je voulais juste rajouter une chose.
Non, auditeur, auditrice, c'était la fin. Cinébrunch a fait le tour du paddock. On n'en parlera plus. Non, mais... les écuries sont pleines.
À documentaire sur Louise Lecavalier donné, on ne regarde pas la bride. C'est tout ce que je voulais rajouter à tout ça. Voilà.
Voilà, je poursuis sur cette blague. Bref, j'écoutais tantôt une entrevue avec le réalisateur du film où il expliquait que, selon lui, son film, en fait, n'était pas un documentaire parce que c'est un film qui est très subjectif et il n'y a vraiment aucune démarche journalistique, mais c'est présenté comme un documentaire quand même. Et c'est un film qui est vraiment très intime. On découvre vraiment qui est Louise Lecavalier en ce moment, aujourd'hui. Évidemment, pour expliquer qui elle est aujourd'hui, on va revenir sur ses 40 années en tant que danseuse et chorégraphe, mais seulement dans le but de supporter l'argument principal. Et c'est un film qui est divisé en plusieurs sections, qui sont toutes entrecoupées de longs extraits chorégraphiques qui sont filmés et montés vraiment à la perfection.
Et tu disais que c'était ambitieux, les plans étaient vraiment, vraiment le fun à voir.
Puis ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'il y a vraiment un travail qui a été fait derrière ça, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment un art de rendre l'intensité et l'émotion de la danse contemporaine au cinéma. Parce que contrairement à quand on est dans un spectacle en salle, notre œil peut aller explorer ce qu'il veut. Lorsqu'on filme de la danse, les plans, les coupes, les mouvements de caméra viennent altérer l'âme de la chorégraphie. Ils dirigent notre regard. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait pour adapter deux de ces pièces, Soul Blue et Mille Batailles, à l'écran. Mais quand je dis un travail, c'est vraiment, ils ont adapté les chorégraphies, les décors, l'éclairage et les mouvements de caméra. Ils ont travaillé avec le metteur en scène et la chorégraphe afin vraiment d'aller chercher l'essence de la pièce. Et c'est rare qu'un travail comme ça est fait. Et ça donne un résultat qui est vraiment exceptionnel. Ça donne un film qui est vraiment artistique dans le sens artiste du terme et qui est visuellement vraiment merveilleux. Et on ajoute à ça une musique originale composée pour le film qui accompagne merveilleusement bien les trames sonores originales des différentes chorégraphies présentées. Puis c'est vraiment là qu'on a la recette pour un film aussi extraordinaire. Donc, je vous le recommande vraiment à tous. Louise le Cavalier sur son cheval de feu. Pour ceux qui aiment le cinéma, on est vraiment dans un genre cinématographique qui est très particulier, qui est un genre d'hybride, donc c'est très innovateur, rafraîchissant. Pour les amateurs de danse, ben, c'est vraiment un incontournable. Et pour tous ceux, en fait, qui sont à la recherche de motivation ou d'inspiration dans leur quotidien, c'est un film qui est extraordinairement parfait pour ça. J'y vais avec un 9.9 sur 10.
Ouh!
Vraiment.
9.9.
Ah oui.
Calvary.
C'est ce que j'ai vu de meilleur qui s'est fait récemment. On réinvente un genre, on est vraiment dans le côté artistique des choses. C'est vraiment de l'art.
C'est impressionnant.
Donc,
Et c'est seulement une semaine à la Maison du cinéma, donc allez-y au trot, si c'est pas au galop.
Exactement.
Encore une fois, un film pour tous. Ben, merci beaucoup, Mélina, de cette critique.
Donc, Louis, t'étais voir un film?
Oh, j'ai été voir... Écoute, selon certaines données, c'est un film, pas toutes. J'ai été voir Pacific Rim, Uprising, Les Rives du Pacifique, La Révolte. Ce qui est vraiment la pire traduction de film, mais en même temps, le titre du film est déjà de la scrap. Parce que, je vous annonce officiellement, c'est un divulgateur, mesdames, messieurs, il n'y a pas d'Uprising dans Pacific Rim. En fait, ça aurait pu être Exodus, Vengeance, Revengeance ou n'importe quel autre. Tu sais, il y a un grand livre, un grand chapeau.
Des beaux mots pour faire des suites, là.
Ouais, qui veulent rien dire, là, comme...
Origins, enfin, quoi que ça veut dire quelque chose, quand même, mais bon.
Ouais, mais pas assez.
Ouais.
Tu sais, Exodus, Vengeance, Uprising, c'est toute une génération de mots qui ont perdu leur sens quand tu fais une suite.
c'est surutilisé.
C'est, ouais, à un niveau dur à suivre. Puis, particulièrement dans ce film-là, bon, full disclosure, mesdames, messieurs, j'ai vu Pacific Rim, l'original, une couple de fois. J'ai vu au cinéma quand il est sorti. Et j'avais parti de ceux qui l'ont quand même aimé. C'était pas le meilleur film ever, mais c'était le film stupide le plus brillant que j'ai vu en 2015, ou le film brillant le plus stupide que j'ai vu. T'sais, c'est pas clair, mais c'était clairement... Bon, au niveau de l'action, tu sais, puis de comment c'était fait, des Transformers les plus crédibles.
Ouais.
Mais en même temps, il y avait quelque chose, là. Bon, puis pour ceux et celles qui le savent, j'ai un crush sur Idris Elba, qui jouait le rôle principal dans cette histoire-là, et c'est ça.
Je vois.
Fait que c'était facile à suivre. Mais là, Uprising, on suit le fils du personnage joué par Idris Elba, qui est supposé être cool.
Mais t'as pas eu un crush dessus,
Ah, difficilement. On va mettre la bande-annonce, après ça je vous explique de quoi il en retourne.
Nous sommes nés dans un monde en guerre. Entre les monstres qui détruisaient nos villes et les monstres que nous avions créés pour les arrêter. Nous pensions avoir fait assez de sacrifices. Mais la guerre, qui nous semblait pourtant terminée, ne fait que commencer. Et la seule chose qui se dresse face à l'apocalypse, c'est nous.
Alors, Apocalypse, c'est ça l'autre mot absolument qui rajoutait oui, des suites qui voilà. Vont rien dire. Donc, Pacific Rim Uprising. 10 années se sont écoulées depuis que la brèche a été détruite, empêchant les méchants monstres kaiju de rejoindre la surface de la Terre. Juste pour qu'on soit clair, rapidement, là, une digression philosophique. Les kaiju n'ont jamais montré étant méchants, ils n'ont jamais été montrés ayant doté d'une moralité quelconque. Ils faisaient juste défaire des choses, mais ça valait plus d'un comportement animal que directement contrôlé. Donc, premier point négatif.
D'accord.
Contrairement à son père qui est mort en héros, Jake Pentecost vit d'activités douteuses. Lire ici, c'est une espèce de contrebandier slash vagabond slash sans-abri qui survit en volant des ruines des technologies Jaeger, qui est l'espèce de programme qui avait créé les monstres qui se battaient contre les kaiju. Il a la chance de remettre son existence dans le droit chemin en entraînant de jeunes pilotes de Jaeger, des robots géants. Il se prend notamment d'affection pour Amara, une adolescente aussi talentueuse que rebelle. Alors que les autorités prévoient utiliser des drones pour contrôler les Jaeger, une erreur aux proportions funestes se produit. C'est à Jake et son équipe inexpérimentée de réparer les pots cassés.
Oh. Mais les Jaeger, là,
ouais.
Pour quelqu'un qui veut comprendre, là,
ouais.
Les Jaeger, là...
C'est le mot fancy pour des gros robots.
Ouais, mais est-ce que quelqu'un qui conduit ça, c'est comme un maître Jaeger? Jaeger Master, mettons?
Oh, ouch.
Excusez-la.
En fait, pour répondre à ta question, non, toute la prémisse, en fait, du dernier film, puis qui est mal expliquée dans celui-là, c'est l'idée que ça, tu peux pas conduire les Jaeger à une personne. Ça te prend nécessairement deux personnes qui sont... drift compatible, qui sont compatibles drifting. Puis, c'est jamais clair ce que ça veut dire être drift compatible. C'est jamais clair pourquoi ça prend deux personnes, autre que ça prend une force mentale suffisante pour être capable de le faire.
Que c'est pas des mouvements mécaniques qui font qu'il faut être deux, là. C'est pas parce que ça se conduit à deux, c'est parce que, genre...
Non, parce que toute l'idée, en fait, c'est que les deux sont... connectés ensemble, puis agissent en simultané, en étant comme combiné drift dans cette histoire-là. C'était vraiment mieux expliqué dans le premier, puis il y avait vraiment fait des trucs intéressants avec ça, où est-ce que pour que deux personnes soient capables, tu sais, non seulement il faut que tu sois capable de te connecter drift, mais il faut aussi que tu sois compatible avec ton partner, ce qui donnait des trucs intéressants, où est-ce que tu avais des personnages qui avaient des évolutions, où ce qu'on voyait le personnage évoluer, s'épanouir, puis s'épanouir dans la relation avec l'autre pour être capable d'être plus compatible avec l'autre, puis ainsi mieux se battre. Bref, Jake Pentecost se ramasse en prison. On lui offre la chance de retourner puis de se battre aux côtés des cadets qui sont en train d'apprendre,
okay.
Comme pour revenir dans la vraie vie. Mais là, lui est comme « Oh, je vais juste le faire le temps que les drones arrivent puis règlent tout ça. » Surtout qu'il se ramasse avec son espèce d'ancien ennemi slash ami de quand il était lui-même cadet, Nate. Nate, qui est ridiculement le gars américain avec la mâchoire carrée, les yeux bleus, puis le look un peu sexy, là, comme
ben oui.
Lui.
Il me semble que j'ai déjà vu dans un autre film.
Tout. C'est Tom Cruise, mais avec 30 ans de moins, l'acteur qui joue ça, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Mais oui, oui. C'est
Tom Cruise, il a pas les yeux bleus.
Là. Il a la bouche non symétrique aussi.
En plus.
Rien à voir.
Puis il est scientologue.
En plus. Mais il veut sortir de la scientologie.
C'est vrai, j'ai vu ça moi aussi.
Je suis brisé en ce moment, auditeur, auditrice, je suis plus en train de faire ça. Mais, fait que bref, la merde pong, il y a quelque chose qui sort. Si vous avez vu la bande-annonce, vous le savez qu'il y a un traître.
Oui, c'est
on
ça.
On sait pas c'est quoi, on sait pas c'est qui, mais on sait qu'il y a un traître. Ils ont ramené les anciens personnages, dont les deux docteurs qui sont encore là. Un qui est un espèce d'Allemand un peu louche qui est pas capable d'interagir socialement avec les gens. L'autre qui est un Américain un peu louche qui est vraiment trop exubérant pour interagir avec les autres. Comment je peux expliquer ça sans tomber dans les sacres? J'ai vraiment...
OK, à ce point-là.
Non, c'était un bon... Ça aurait dû être un excellent film. Le premier était un bon film. Il lui manquait seulement quelques touches de vernis pour être un excellent film. Pour le deuxième film, ils ont mis le vernis, mais ils ont comme enlevé tout ce qui rendait intéressant le dernier film. C'est-à-dire que je lisais, honnêtement, là, la description que j'en ai faite, c'est celle qui est sortie avec le film, mais je réécrivais un synopsis pour moi. Puis c'était comme le même synopsis que, genre, toutes les Transformers... que la plupart des films d'action poche qu'on a vu comme
ouais,
dans les... Tu sais, c'était pas rien de... Il y a une affaire qui est intéressante. La série Pacific Rim se sent obligée de cock-block ses personnages principaux. C'est-à-dire que c'est comme le fun qu'il n'y ait pas une relation amoureuse à la fin. Mm. C'est tout. C'est la seule affaire qu'ils ont ramené. Okay. Le personnage principal est noir, c'est cool, mais c'est tellement dull comme film que c'est pas intéressant. Fait que bref, j'ai bien aimé Pacific Rim, Uprising.
Ah bon?
Mais pas pour les bonnes raisons. Mm. Parce que les scènes de combat... J'en ai pas parlé encore, hein, parce que je gardais la meilleure pour la fin. Les scènes de combat étaient le fun. Les scènes de combat étaient exubérantes. Les scènes de combat étaient pleines de joie et de kaiju morts. Les scènes de combat étaient vraiment... Ils justifiaient d'avoir une scène de combat entre des robots puis des monstres gigantesques. On comprenait la lourdeur de la chose. On comprenait l'espèce de... Puis c'était juste cool, là. Il y avait des étincelles, des flammes, des explosions, des épées en feu gigantesques de 3 étages. Tu sais, ça valait la peine. Ce qui aurait été vraiment le fun, c'est que ça aurait été comme tissé avec une histoire qui faisait que je me sentais concerné par l'histoire des personnages. Parce que, dans le fond, toute la prémisse de l'histoire, c'est que la brèche qui est rouverte, c'est une brèche vers un autre univers. D'où il y a des monstres de 40 000 pieds de haut qui sortent puis qui essaient de faire quelque chose, mais qui finissent par juste tuer tout le monde en chemin.
Ben, ça a l'air intense.
C'est, ben, comme je dis, le premier avait vraiment quoi d'intéressant. L'histoire était cool, il manquait un peu de vernis ses bords, mais l'histoire se tenait bien, on avait une trame narrative intéressante, on avait un arc qui rendait ça le fun. Il
manquait les flèches.
Non, il manquait le vernis.
Il manquait le vernis. Tu sais, t'avais un arc en bois, tourne, vraiment bien fait, mais tu sais, tu pognais des échantes parce qu'il n'avait pas été verni à
voilà,
la fin.
Voilà.
Il allait se maganer à la pluie. Là, ils ont enlevé l'arc, mais ils ont laissé le vernis.
Fait que ça te colle dans les mains, tu sais.
Ils ont comme trop sablé l'arc, ça a enlevé tout le cachet, tu sais.
Puis ils sont aussi débarrassés des acteurs qui valaient cher, fait que le cachet était pas super dispendieux.
Ils ont changé de bois.
Mais c'est ça, tu disais que dans le fond, les bons acteurs avaient comme pas vraiment renouvelé.
Non, personne. Idriss Elba était. Non, c'est ça. Idriss Elba, puis Tian Jing étaient les deux. Ben, l'acteur et l'actrice qui étaient bons. Tian Jing est revenu, mais genre pour 8 scènes, même pas. Sinon, c'est John Boyega qu'on a vu aussi dans Star Wars en tant que Finn, qui était vraiment intéressant.
Mmh. Ah, le... Okay, oui.
Le
oui,
Stormtrooper.
Le noir.
Oui, qui est dans un costume blanc.
Effectivement, oui.
Mais qui joue un Jake Pentecost très crédible. Je pense pas... Voici ce que je vais dire. J'enlève rien aux acteurs, j'enlève rien aux gens qui ont fait les effets spéciaux, j'enlève rien aux gens qui ont fait de la musique, mais j'enlève vraiment quelque chose aux gens qui ont écrit l'histoire puis qui ont réalisé cette histoire-là. C'est ça.
Le message est passé.
Total de 7 sur 10. C'est écoutable, là. C'est juste, tu sais, c'est écouté, mais un peu abruti.
Bon.
Fait que ce serait ça.
Ça fait quand même hausser ta moyenne de l'année 2018.
Ouh, c'est vrai, c'est le premier film que je donne au-dessus de 5, je pense.
Quasiment.
Excellent.
C'est le moment des sorties cinéma. Je
suis sorti!
OK, fait que cette semaine, c'est les sorties. Puis on a quand même pas mal de stock, le fun. Ben, en tout cas, questionnable, mettons.
Comme chaque semaine.
On commençait par Blocker, la version originale de Blockers. Mais là, ils le font parce qu'ils voulaient pas être vulgaires, mais comme sur toutes les affiches de ce film-là, il y a un poulet mâle avant le titre.
Un poulet mâle.
Ouais, ben un coq.
Oui, c'est ça.
Fait qu'un coq Blocker.
Oh!
C'est vraiment ça, toute la prémisse du film, là. C'est... Ça met en vedette John Cena, Leslie Mann, Catherine Newton. Tu sais, c'est pas...
Moi, je l'aime, Leslie Mann.
Oui, moi aussi, j'aime beaucoup Leslie Mann.
C'est vraiment bizarre
et j'aime
comme
beaucoup
projet.
John Cena, mais c'est trois parents qui découvrent. Puis, il y a vraiment des bons acteurs là-dedans. C'est tout, mais c'est une comédie. Là. C'est trois parents découvrent que leurs filles ont fait un pacte pour perdre leur virginité durant le bal de finissant. La bande-annonce implique des parents qui essaient de s'expliquer des émojis. Puis, c'est comme, non, ils sont pas en train de. Puis là, t'as le légume mauve, là.
Oui, la courgette ou l'aubergine.
L'aubergine. Oui. T'as une aubergine, des trucs d'eau. Tu sais, c'est très clairement...
À connotation, disons,
ben, écoute,
coïtale.
Là, plus ça avance, plus c'est évident. Puis ils refusent de se l'expliquer, là. Fait que ça a l'air quand même drôle. Tu sais, j'aime pas les comédies, mais celle-là, je vais peut-être y penser. On a aussi La Bolduc.
Oui.
Drame biographique, Québec, réalisé par François Bouchard. Excusez-là, je copie-colle des affaires. Ça met en vedette Debbie Lynch-White, Émile Proulx-Cloutier, Rosemary Perrault, Bianca Gervais, Mylène Maquet et Ian England. Je pourrais faire la description, mais c'est la bazook. C'est début du 20e siècle, une mère de famille pauvre et sans éducation réussit à sortir sa famille de la misère en devenant une chanteuse folklorique au succès retentissant. Avec en arrière-plan la crise des années 20-30 et les premiers élans de la lutte pour les droits de la femme. Le scénario retrace la vie de Marie Travers Bolduc, sa carrière fulgurante, son mariage difficile et sa relation touchante avec sa fille aînée, Denise, qui jouait du piano sur les disques de sa mère et rêvait de devenir actrice à Hollywood.
C'est bien résumé.
Honnêtement, la bande-annonce ne fait pas justice, elle a l'air vraiment excellent. Là. Comme je recommande à tout le monde de se mettre en file pour aller le voir tout de suite. Là.
Ben, en fait, c'est pas sorti encore.
Ça sort vendredi.
Ouais.
Un coin tranquille, la version originale de A Quiet Place, un film d'horreur américain, réalisé par John Krasinski, sa mère vedette Emily Blunt, John Krasinski. Une famille du Midwest est harcelée par une présence fantomatique. Honnêtement, j'ai vu la bande-annonce, puis il n'y a rien de plus que ça. Il arrive dans une maison, il y a un fantôme. En tout cas. La saison miracle, The Miracle Season, qui est un drame américain, le succès surprise au championnat régional d'une équipe de volleyball d'Iowa City après la disparition soudaine de leur meilleure joueuse, qui a l'air quand même bon aussi.
Ouais. J'aime pas trop les films de sport, mais comme il y a l'air d'avoir d'autres choses dans celui-là.
Oui, ça a l'air d'être une vraie histoire avec le sport comme thème, pas comme sujet. On a également Grand Cru, qui est un documentaire québécois réalisé par David Eng. Pascal Marchand, un aspirant poète de Montréal, a mis le pied sur la terre mythique de Bourgogne dans les années 80 avec l'idée de se plonger à fond dans la culture française. Jeune étranger perdu au milieu de familles dotées de traditions et de titres ancestraux, il a finalement trouvé sa vocation de viticulteur. J'ai
l'impression qu'on allait voir ça, moi.
Mais moi, j'ai vu un documentaire cette semaine qui était excellent.
Oui, c'est juste que la prémisse en documentaire doit être assez lourde.
Tous les documentaires ne sont pas créés égaux. Ce serait ça pour les films de cette semaine.
Ben, merci, Louis.
Nous sommes de retour à Cinébrunch. Nous allons parler de notre top 3 des films de Pâques, des controverses qui entourent le film de Solo, l'histoire de Star Wars, également du Festival du film de Sherbrooke qui s'en vient à grands pas. Mais avant tout, Jim nous parle du film qu'il a été voir cette semaine, Brio.
Oui, j'ai été voir... j'avais dibs sur ce film-là la semaine passée, si vous vous souvenez bien. Et oui, le film s'appelle Brio. C'est coécrit et réalisé par Yvan Attal. C'est une production, vous l'aurez deviné, franco-belge. Le film met en scène le grandiose Daniel Auteuil. C'est mon idole, je peux pas manquer aucun de ses films. Et Camélia Jordana, une découverte ici pour moi, même si elle a fait quelques films avant que je n'ai jamais vu. Voici la bande-annonce.
Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard.
Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là?
Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique.
Typique? Typique de quoi, exactement?
C'est du racisme, vous avez pas le droit.
T'as complètement pété les plombs, Pierre.
Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline.
C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne?
Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence.
Eh, mais moi, je veux rien du tout de vous.
Mon salut est entre les mains de Neila Salah.
Va mourir.
Donc, ça met un peu la table sur ce film et sur ce qu'il va raconter. Je vais quand même le décrire un petit peu. Donc, le film Brio nous montre une relation, vous l'aurez compris, conflictuelle et bien étrange entre un professeur d'université et une étudiante de tous deux de l'Université de Paris 2, qui est une école, disons, spécialisée en droit. Donc, les étudiants qui vont la fréquenter vont être formés pour être principalement des avocats. Daniel Auteuil interprète Pierre Mazard, donc le fameux professeur provocateur et dérangeant qui n'a pas peur de s'exprimer contre les courants sociaux actuels. Et on le devine aussi assez vieux jeu conservateur, mais c'est un homme droit qui sait bien s'exprimer, convaincre et avoir ce qu'il veut. De l'autre côté, Camélia Jordana, donc, qui joue le rôle de Neila Salah, une jeune étudiante d'origine maghrébine qui habite à Créteil, banlieue parisienne souvent caricaturée comme étant ghettoisée, multiculturelle et pauvre. À la première séance de son cours avec Pierre Mazard, elle va arriver en retard, habillée comme une banlieusarde, dans l'immense amphithéâtre que représente la salle de cours. C'est bondé, il y a plein de monde, elle se trouve à déranger un peu les gens en marchant. Et le professeur Mazard, dans son micro, la ridiculise avec des propos, comme vous l'avez entendu, qui frôlent le racisme ou la discrimination. En tout cas, c'est pas politiquement correct pour reprendre leurs mots. Évidemment, on est à l'ère des téléphones intelligents, donc des vidéos vont circuler sur YouTube et Internet, et le supérieur du professeur Mazard, qui semble aussi être l'ami de Pierre Mazard, lui apprend qu'il ne peut pas éviter le conseil de discipline, à moins que... Et c'est là que le film commence, parce que... Disons que Pierre se fait fortement recommander par son ami de présenter la fameuse Neila, pour qui il n'a aucune affinité, Ben, elle a présenté au prestigieux concours d'éloquence pour représenter l'université. En coachant et en représentant cette femme-là d'origine, d'une origine culturelle différente de, disons, le français standard, ça va jouer en sa faveur et il va peut-être s'en sortir sans conseil de discipline. Alors, c'est comme ça qu'il va se trouver, Pierre Mazar, à enseigner la rhétorique, l'art de convaincre et même presque la démagogie à Neila Salah. Alors, je pense que j'en ai assez parlé pour ce film-là, mais laissez-moi vous dire que c'est tout un prof, le docteur Mazar.
Oui,
pas le docteur, mais le professeur Mazar.
Vraiment.
Donc, bon, écoutez, j'en ai vraiment assez dit là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment intéressant de voir la transformation du personnage de Neila dans le film, ses relations avec ses amis. Daniel Auteuil est vraiment fantastique dans son rôle, mais... est-ce qu'il ne l'est pas toujours? C'est la question que vous me posez, clairement. Évidemment qu'il l'est. Mais donc, sinon, transformation du personnage, ça, c'était bien. Mais je m'ennuie un petit peu de... En fait, je m'ennuie un peu de l'accent du sud de Daniel Auteuil dans ce film-là, qui laisse pour un accent parisien standard, disons.
Mais ça n'aurait pas trop collé, non?
Ben, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est un film sur le clash social et culturel, mais aussi un peu sur l'importance de la vérité versus avoir raison, parce que souvent, durant le film, et même dans la bande-annonce, peut-être pas l'extrait qu'on a mis, mais il dit « La vérité, on s'en fout, l'important, c'est d'avoir raison. Mm-hmm. » Et ça montre vraiment la mentalité qu'il y a derrière cet homme-là, et évidemment, son enseignement. Donc, les personnages sont très forts et c'est plus ça d'ailleurs qui est important dans le film parce que l'histoire en elle-même, il n'y a pas tant de choses que ça. On va voir vraiment les personnages évoluer. C'est pour ça qu'on reste accroché sur le siège ou plutôt assis sur le siège. Sinon, c'est un hybride entre la comédie et le drame léger. Donc, ça s'écoute très bien, un film français comme on les connaît. On nous bardasse tranquillement entre le rire et le sérieux. Ça ne vieillit pas, visiblement. Donc, c'est un film qui s'écoute très bien, même qui se réécoute bien. Je risque de le revoir d'ailleurs un jour. Ça ne me dérangerait pas du tout. Ça ne gagnera pas le Festival de Cannes, mais j'ai quand même apprécié ça suffisamment pour lui donner un 8,5 sur 10. Donc, le film Brio, parfait pour le congé de Pâques si vous n'avez pas d'enfant, parce que sinon, ils vont rien comprendre.
Mais très intéressant aussi. Je l'ai vu moi-même, puis j'ai vraiment aimé ce film.
Excellent, je suis content d'entendre ça. Merci beaucoup, Jim, pour cette critique.
Ça fait plaisir.
Sans pareil.
C'est le moment du top 3.
C'est donc le moment du top 3, tel que l'a annoncé notre joyeux jingle. Top 3 des films de Pâques. C'est une catégorie que je trouvais vraiment intéressante. Puis je pense qu'on a tous et toutes choisi de l'interpréter à notre manière.
Vraiment, ouais. Je pense que oui.
Ouais, je pense que oui, hein, parce que j'entendais avant qu'on rentre en onde, mais Nick disait c'est Pâques et presque Pâques. Jim qui refusait d'utiliser le terme chrétien, tu disais donc Pâque. Pouk.
C'est un hommage à Joe. Salut Joe d'ailleurs.
Salut Joe.
Bonjour Joe.
Salut, mais oui. Je sais pas c'est qui. Donc c'est ça, puis moi qui ai juste choisi mes meilleurs films pour les moments de printemps où j'ai vraiment hâte à l'été.
Bon.
Fait que c'est ça. Fait que si vous me demandez cette semaine, je commencerai le top 3 des films de Pâques.
Topé, cher ami.
Nous te le permettons.
Bon, moi, pour commencer, j'avais comme pas le choix d'en parler, mais qui veut la peau de Roger Rabbit, qui était un de mes films favoris quand j'étais jeune, sans comprendre pourquoi, en fait, parce que pour ceux et celles qui l'ont vu, vous savez que c'est un film qui a des thèmes quand même assez adultes.
Effectivement.
C'est toute une intrigue qui tourne autour d'un lapin dont sa femme a une affaire avec le directeur et fondateur de Acme. Fait que c'est weird. C'est surtout intéressant parce que c'était une collaboration entre Disney
et Warner.
Et Warner, la dernière fois.
La connaissance s'est jamais fait après, là.
Et avant même.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça, donc on voit Daffy Duck, Bugs Bunny interagir avec Mickey Mouse, on voit, pas Mickey Mouse, avec Donald Duck,
oui.
On voit Roger Rabbit qui est un personnage créé pour le truc, c'est tout dans un univers entre le Toons et la vraie vie, où est-ce que certains des personnages sont du dessin animé, d'autres non, c'est un classique, c'est noir, c'est humoristique, c'est trash, c'est vraiment un film que je trouve extraordinaire. Puis il y a un lapin dedans, fait que nécessairement...
Pâques.
Hein?
Voilà. Tout de suite, Pâques.
Pâques. C'est donc Pâques dans ma tête à chaque fois que j'écoute Qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais moi, Pâques, tu sais, ça arrive tout le temps mars, avril. Puis c'est tout le temps ces moments-là où est-ce que la Kistie de Marmotte est sortie de son trou, puis on sait s'il va nous rester 6 semaines ou pas d'hiver. Donc moi, c'est ça. Pâques, absolument, c'est le moment... C'est comme la longue fin de semaine où je suis comme... Oh, fait l'être dehors, il y a de la boîte, il y a de la neige encore, mais comme pas assez pour dire que c'est vraiment l'hiver, mais juste assez pour dire que c'est fâchant, puis que je peux pas me mettre en sandales puis en short. En fait, Je vous l'annonce en onde. Moi, je suis un homme de short pis de sandales. J'ai juste hâte à l'été. Fait que pour moi, je pense que c'est comme la dernière fin de semaine où je regarde des films d'été. Ou tu sais, des films qui me font vraiment penser...
C'est la
dernière
fois que tu regardes des films d'été?
Non, mais c'est la fin de semaine où j'en écoute le plus.
Ah.
Parce que longue fin de semaine...
Pour te mettre dans l'ambiance. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça.
Fait que j'ai pas le choix de vous parler d'un film qui s'appelle Extrême Limite. Point Break.
Heureusement que t'as fait ce petit... introduction-là, parce que sinon, vraiment, on n'aurait pas compris le lien
Extrême
avec
Pauk. Extrême Limite, hein? Non? Oui, non, c'est nécessaire. Je ne peux pas juste... Pauk, Point Break. Non, c'est ça. Ouais. Tout le monde connaît l'histoire, ou tout le monde devrait connaître l'histoire de Johnny Utah, joué par Keanu Reeves, qui s'enligne pour une quête avec Gary Busey, qui joue Angelo Pappas, de trouver le Mystic Body, qui est joué par nul autre que Patrick Swayze. C'est 87... C'était avant qu'on découvre des affaires comme la technologie puis arrêter de se prendre au sérieux dans les films. C'était de toute beauté. Ça se passe, évidemment, à Los Angeles. Il fait beau, il fait chaud. Johnny Utah est un joueur de football. C'est un truc de surfeur.
Ouais.
Des plages.
De vol de banque.
Oui. Des jolies femmes. Un type qui tire dans les airs en criant le nom d'un autre type. C'est des masques de président américain.
Oui, c'est vrai, j'ai oublié les masques.
Ben, c'est toute la prémisse de la chose.
C'est caricaturé mille fois après ce film-là.
Ben oui,
c'était
extraordinaire. Oh, oui. Le plus marquant pour moi, c'était dans Batman avec le Joker, là, celui-là.
On pourrait dire que c'est un film culte à la limite.
Ben, surtout quand... Oui, définitivement. Le remake, not so much. Le remake, pas tant que ça.
J'ai pas vu.
Ouais, ne le regarde pas, ça ne vaut pas la peine. Mon dernier, c'est de la faute à Jim que j'inclus ce film-là. J'étais vraiment pas sûr que je l'allais mettre comme top 3, parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de films qui me font penser à l'été. Je pensais aux Chroniques de Riddick, qui est un film de science-fiction avec Vin Diesel, que je trouve vraiment intéressant, qui se passe au complet dans le désert. Fait que ça a quand même un certain impact.
Mais je t'ai fait penser à ça, moi.
C'est ça, c'est les autres films que j'aurais pu parler. Tu sais, j'aurais pu parler de... Tu sais, il y a un paquet de trucs, des trucs qui se passent carrément dans Sarah. Mais non, j'ai pas eu le choix que de retourner à mes racines, de penser à un moment dans ma jeunesse, j'ai fait « J'ai chaud, je suis bien, je vois un film que j'aime. » Fait que j'ai pensé à l'original, rapide et dangereux.
Oh!
Encore une
Comme
fois,
c'est surprenant.
Los Angeles, des plages.
Quel beau film pour Puck.
Quel beau film pour Punk. Puis en fait, moi, à la base, mon idée pour Punk, c'était de faire un top 3 des films qui peuvent s'écouter comme en binge, qu'on peut écouter tout d'un morceau parce que c'est une longue fin de semaine. Puis...
Fait que t'écoutes 1, 2, 3, 4.
C'est ça. Fait que j'hésitais entre comme Le Seigneur des Anneaux puis Les Rapides et Dangereux. T'sais, moi, c'était ça ma question. Parce que Paul Walker qui se fait aller sur le bord d'une plage, Vin Diesel qui s'en mêle... C'est toutes des belles affaires, là. Comme il n'y a pas de meilleure manière que d'éviter de parler à sa famille que d'écouter un film de gun, de char pis de pitoune. En tout cas, ça te permet de, tu sais, avec une bière liée avec les membres masculins de ta famille, là, comme...
J'ai manger sexiste, des ailes. Mais... On mange des ailes, on rote, on tape
ouais,
sa table.
Mais c'est parce que les ailes, ça marche pas avec Punk.
Ah ouais, non,
mais
c'est ça.
Mais tu te bourres la face de chocolat en écoutant un film qui est finalement quand même... Tu vois, c'est une belle métaphore.
Ben oui.
C'est vraiment sweet, ça a l'air excellent, mais en dedans, c'est vide.
Comme un Kinder.
Comme... Non, il y a un jouet en dedans.
Ah ouais, c'est vrai.
T'as pris le chocolat
qui a de quoi
qui
dedans.
Marchait pas. Fait que, pour me venger, Mélina, c'est quoi ton top 3?
Oui, en fait, moi, je l'ai interprété d'une autre façon. Et on parlait de lapins. Donc, j'ai fait le top 3 de mes lapins préférés. Dans des films, bien entendu. Donc, j'ai commencé avec mon troisième lapin préféré. En troisième position, donc, le lapin que j'ai choisi, c'est le fameux lapin blanc. Lapin blanc, oui, celui que...
J'aime mieux le lapin brun, moi.
Excusez. Bon, donc oui, le fameux lapin blanc, je reviens à mon lapin, il est habillé d'une veste et surtout d'une montre. Oui. Voilà, le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un lapin, je le mets en troisième position parce qu'il est un peu stressant.
Il est en retard aussi.
Il est en retard. Oui. Il fait juste dire qu'il est en retard tout le temps, mais pour moi, ça pourrait quand même être un bon compagnon pour m'aider à être à l'heure. C'est quand même lui qui va entraîner Alice au Pays des Merveilles. Donc,
oui, on parle pas de la version de Tim Burton, j'imagine.
Non, on parle de l'original. Et donc, voilà pour mon troisième lapin préféré. Mon deuxième lapin préféré, en fait, c'est Pampan. Est-ce que vous connaissez Pampan?
Dans Bambi,
exactement.
Oui, qui tape-tape de sa
patte.
D'où le nom Pampan.
Exactement.
En fait.
Il y a le tapia, comme j'ai entendu dire.
Louis est bouche bée.
Je suis surtout confus. Le quoi?
Le tapia. Tapia.
Je connais le poisson, le tapia.
Non, le tilapia. Ne pas confondre avec le tilapia. Par contre, si tu as le tapia sur un tilapia, il perd ses écailles. C'est comme on dit par chez nous.
Voilà.
Voilà.
Donc, pour revenir à Pampan, c'est quand même... Pampan, c'est un bon ami pour Bambi. On s'entend, il est un peu téméraire, il est sûr de lui. Mais il est drôle. On se souvient tous, j'imagine. En tout cas, moi, je m'en souviens de la scène où Pampan essaie d'apprendre à Bambi à patiner. Donc, c'est merveilleux, c'est drôle. C'est mon deuxième lapin préféré. Puis, c'est ça.
Ouais, puis aussi impliqué dans un accident mortel de chasse. Je suis pas convaincu, moi, que Pampan est si hot que ça.
Mais moi, je l'aime mieux que le lapin d'Alice.
Mais Alice au Pays des Merveilles, en général, il y a mon chat favori du cinéma dans ce film-là, d'ailleurs.
Oui, mais le chat,
on fera un top 3 des chats dans les films, éventuellement.
Oui, parce qu'il y a du matériel à dire là-dessus.
À la miaou.
Et là, on est rendu au moment où je vous parle de mon lapin préféré. C'est pas un secret pour tout le monde, j'imagine, quand même,
est-ce que
mon
c'est
lapin.
Peter?
Mais oui, c'est Pierre Lapin! c'est clairement mon lapin préféré. Je parle encore de celui Coquin, Malin et Lapin, le film qui est encore à l'affiche au cinéma. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça peut être le fun pour Pâques d'aller voir ça. Et c'est ça, hein? C'est un lapin qui est tellement attachant qu'on lui a fait son propre film. Je pense que ça veut tout dire parce que mes deux autres lapins, c'est comme. C'est pas les personnages principaux.
Tu sais, les Minions aussi, on leur a fait leur propre film, puis pourtant, je suis pas
non,
plus...
Non, c'est ça.
Oui, mais...
Non. Jim?
Oui, donc, alors, moi, je...
Non, excusez. Comme... Merci, Mélina. C'est un excellent top 3 de lapin. Je fallait juste pas que je sois fin.
Donc, pour rester dans le thème de Pâques / printemps, sachez que moi aussi, je suis un petit peu sorti des sentiers battus.
Parce
je me
que
suis dit
pas capable.
Non. En fait, en troisième position, je sais que pour certains, Pâques, c'est toujours une fête très religieuse.
La passion du Christ.
Non. En fait, c'est ça. Je dis religieux, mais à ma façon, disons. Si vous aimez bien rigoler et que vous parlez anglais, je vous propose d'écouter Life of Brian de Monty Python. Ça demeure,
Dieu.
En quelque sorte, un film religieux, tout adapté pour Pâques avec des rois mages.
Si on veut parler d'un film irrévérencieux
Non, mais je suis succulent, ça. Sauf que je me suis dit, oui, faut pas regarder ça en français, par contre, ça va être épouvantable. Donc, si vous ne parlez pas anglais, je vous recommande une alternative. Mais c'est plus pour Noël que Pâques, en tout cas. Les Rois Mages de 2001 avec Didier Bourdon et Bernard Campin et Pascal Légitimus.
Et Calvin.
Film que plusieurs trouvent pas écoutable, mais j'ai un malin plaisir à regarder. En tout cas, j'ai adoré ce film-là. J'ai écouté 3-4 fois. Je ris toujours autant en le regardant, mais effectivement, il n'y a aucune substance dans ce film. Gaspard, Melchior et Balthazar, les Rois Mages, sont tombés dans une faille temporelle en voulant rejoindre l'étable de Jésus. Ils se retrouvent en 2001 à Paris, notamment... chez des producteurs très enclins à profiter de l'opportunité médiatique. Donc, quand même assez éveillé comme concept.
Quand même!
Sinon, en deuxième position, le film Hop! C'est donc l'histoire du petit lapin de Pâques, l'équivalent du Père Noël, mais à Pâques, là, qui distribue des œufs de Pâques.
Oui,
là.
Oui, oui.
Il se fait frapper par une voiture et le conducteur est un gars au chômage, donc le lapro va foutre le bordel dans sa vie, comme les Chipmunks dans les films de Chipmunks et tout autre film où des animaux parlent, arrivent dans le monde
réel.
C'est
lui qui veut devenir une star du rock, non?
Oui, exactement. Il veut aller à Hollywood, en fait. Je sais pas s'il veut devenir une star du rock, mais il veut faire carrière à Hollywood.
Il joue de la batterie, là.
Oui, il joue de la batterie, exactement. Donc, pour Pâques. Super film pour les enfants, disons, qui aiment les lapins. Mais pour les adultes, j'ai une alternative. Le même que toi, Louis, je suis assez surpris quand même que tu aies pris ça, mais Qui veut la peau de Roger Rabbit de 1988 était mon alternative, disons, plus pour adultes. D'ailleurs, je comprends vraiment pas pourquoi ce film-là a été montré à des enfants, parce que c'est définitivement pas un film pour enfants.
Mais tu sais que ça a floppé, en plus, ce film-là?
Ben, je pense qu'il y avait eu un box-office épouvantable, ce film-là. J'ai genre eu 100 000 de...
Ah oui,
c'est il me semble que non, bon, je pense que justement, c'est ça l'erreur. Ils ont mal, disons...
OK.
Ils ont mal ciblé le marché. J'ai l'impression que ça a eu un succès total parce que c'était un des premiers films, à ma connaissance, à vraiment mélanger, comme ils l'ont fait là, l'animation et le vrai, là, ensemble, d'une façon aussi ambitieuse. Puis maintenant, c'est ça, ça a eu un méchant succès. Ce qui fait que moi, j'ai vu ça très jeune. Hein. Je suis né, vous le saurez, au milieu des années 80. Et donc, je l'ai vu peu de temps après sa sortie. Et je me souviens avoir aimé et pas ce film-là, parce que je voulais le revoir, mais je pense que je le comprenais pas. Et j'ai vu sur Internet qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit d'ailleurs un article dans Le Figaro qui dit pourquoi Qui veut la peau de Roger Rabbit a, disons, créé un traumatisme dans toute une génération. Donc, définitivement, des choses
t'as
sur le sujet.
T'as raison, ils ont 96 sur Rotten Tomatoes, 3,5 sur Roger Ebert, puis 329 millions au box-office.
Mais il y a eu d'autres films liés à ce film-là qui ont probablement eu moins de succès. Donc, et finalement, en première position, je voulais rester dans le thème du lapin. Donc, What's Up Doc, ou en français, On se fait la valise docteur, dont j'ai déjà parlé.
Oui, t'en as déjà
film,
parlé.
Ouais, film de 1972 avec Barbara Streisand. Un jeune homme innocent et maladroit se retrouve malgré lui pris dans une suite d'événements totalement absurdes et rencontre une jeune femme futée qui fout le bordel autour d'elle. Et bon, Barbara est très très bonne dans ce film-là.
Il est où le lapin dans ce film-là?
What's Up Doc. Elle mange des carottes. Parce qu'en fait, je suis dû pour revoir ce film-là, What's Up Doc, et ça se pourrait qu'en le revoyant, je regarde l'avoir mis dans mon top 3. Donc, c'est pourquoi j'ai eu une alternative, encore une fois, film printanier plus que de Pâques, cette fois. En fait, l'action se passe en plein été, fait que après tout le froid, on a envie de la chaleur, un peu comme Louis, là, on a la plage, tout ça. J'ai envie de voir ce film-là au printemps, Les Sous-doués en vacances, film français de 1982 avec Daniel Auteuil, méconnaissable parce qu'il était vraiment très jeune, Guy Marchand entre autres, bref, un film absolument absurde et sans profondeur, mais un divertissement qui nous prépare mentalement pour les élections. Voilà.
Fait que t'as fait comme un top 6 finalement.
Dans le fond, hein?
Ouais, tu sais, je voulais plaire aux jeunes, aux moins jeunes, tu sais, comment est-ce que c'est, là?
Hey Jim.
Oui.
J'ai hâte à mai. Parce qu'en mai, il y a Solo qui s'en vient.
Oui.
A Star Wars Story. L'histoire de Han Solo qui s'en vient à toute vitesse avec, entre autres, je m'excuse. Alden Ehrenreich. Je sais pas de prononcer son nom. Alden qui va jouer Han Solo.
Oui.
Donald Glover qui va jouer le jeune Lando Calrissian. Puis, la dernière bande-annonce est parue quand j'ai été voir mon film, puis c'était vraiment bon.
C'est bien, ça.
Mais j'ai été voir en ligne après ça pour savoir qu'est-ce qui s'en venait. Puis normalement, moi, les rumeurs de films, j'écoute pas ça, ou tu sais, moins.
Mm-hmm.
Mais là, il y en a vraiment beaucoup.
Mais là, parle-moi de ça.
OK, ben, on va commencer par les plus le fun. Connais-tu les controverses autour des posters en ce moment?
Non, je suis pas au courant.
Il y a deux mois, ils ont sorti un poster, une série de posters même pour décrire chacun des personnages. Sauf qu'il était vraiment tout pareil. Il y a une série d'affiches qui avaient été sorties pour des albums de Hakim Bahous. Mais comme, surprenamment pareil.
C'est-tu les mêmes personnes qui ont fait les deux?
Non.
C'est tombé d'étrange?
Ouais, Hakim Bahous était pas content.
Est-ce que ça peut être une coïncidence? Ou
non.
Peu probable.
Disney a retiré les posters tellement qu'ils étaient proches.
Non, mais justement, je vois pas pourquoi ils auraient fait ça volontairement. C'est ce que
ils
je
ont
comprends
fait
pas.
Affaire avec une compagnie de pub qui n'a pas respecté ses devis.
Est-ce que c'est la même compagnie de pub pour les deux?
Non. Également, ils ont sorti une série de posters avec les personnages qui tenaient tous des blasters ou à peu près, entre autres Lando et Han Solo.
Mm-hmm.
Ben, au Brésil, ils ont sorti les mêmes posters, mais pas de blasters. Ce qui a amené une série de rumeurs comme de quoi que c'était un message contre la politique des armes à feu aux États-Unis, que c'était une histoire de...
Whoa.
Finalement, c'était juste une volonté de positionner le film différemment au Brésil.
Oui, clairement. T'as de le rendre
tout simplement
familial. Ouais.
Définitivement. Mm-hmm. Mais ça, c'est comme... Les moins le fun,
okay.
C'est justement Alden Ehrenreich qui incarne Han Solo jeune, aurait bien de la misère en ce moment. Parce qu'au printemps, dans le film,
ouh.
Il aurait besoin d'un coach de dialogue.
Ben, il est un peu tard, le film doit être monté puis tout. Là.
Non, mais pendant les scènes, dans toutes les scènes, il avait besoin d'avoir un coach d'acting avec lui pour faire chacun des dialogues.
Mais tu savais que Gérard Depardieu aussi?
Ouais, mais c'est Jerry.
Ouais, ça passe, il y a la citoyenneté russe puis tout, là, mais mettons là.
Ouais, OK. Non, peut-être. L'autre affaire, c'est Phil Lord et Christopher Miller, qui étaient les directeurs du film de Lego, 21 Jump Street, 22 Jump Street, qui étaient vraiment reconnus pour leur sens de l'humour, leur improvisation, leur truc, qui étaient supposés diriger le film,
okay.
Qui ont été retirés au milieu de la production.
Oups, ça passait pas selon
lui. Le nouveau directeur, Ron Howard, a dû refaire une partie importante de reshoot.
Puis ça, là, des fois, là, quand tu changes... Tu m'as parlé d'un autre film l'année passée, je pense.
Oui.
Tu disais qu'il avait été arrivé... Même chose est arrivée, ils ont changé deux fois de directeur.
Oui, ben c'était Batman vs Superman.
Ça donne pas des bons résultats.
Non, puis au point tel qu'il y a un des acteurs, Michael K. Williams, qu'on avait connu dans The Wire, a dû être retiré complètement du film. Parce que ses scènes avaient été tournées entièrement sous l'égide de Phil Lord et Christopher Miller. Puis il était pas disponible lors des reshoots. Fait qu'il peut pas être dans le film.
Eh.
Ouais.
Aïe, aïe. Incroyable.
Fait que, ça, c'est... à voir.
Gardons espoir, Louis. Gardons espoir.
Donc, c'est ça. Normalement, je ne suis pas beaucoup les rumeurs. Puis là, ça me semblait comme assez important parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Puis là, il y a même des rumeurs qui ont commencé à sortir comme de quoi que Disney le sait. Et Disney serait comme prêt à ce que le film soit pas bon. Puis là, j'ai comme peur parce que c'est quand même un des personnages importants en solo.
Mais pourquoi Disney serait prêt à ce que le film soit pas bon?
Ils ont comme renoncé.
C'est ça, ils savent déjà.
Ils savent que ça va se vendre pareil parce que c'est un Star Wars, tu sais.
Mais au lieu de faire 1 milliard, ils vont peut-être juste faire 300 millions, tu sais.
OK, ouais.
Ben écoute, j'espère vraiment que ça va être bon parce que j'avais un bon espoir pour ce film-là, oui. Sachant que l'autre à Star Wars...
Oui, parce qu'on avait les mêmes rumeurs autour de Rogue One, que ça allait être pourri, puis qu'il y avait eu des reshoots, puis que c'était pas... Finalement, c'est probablement le meilleur Star Wars jusqu'à présent. T'sais.
Ben c'est ça. Si ça se trouve, ça va être la même chose. Peut-être qu'ils font exprès de faire de la mauvaise presse parce que parlez-en bien, parlez-en mal. Espérons-le.
Mais les auteurs,
je touche du bois laminé en ce moment.
Mais j'ai les doigts croisés.
Bon, vois-tu?
Ce serait donc ça pour Han Solo. Jim, tu voulais nous parler du Festival de films de Sherbrooke.
Oui, parce que, hein, comme on dit, qui sait attendre n'a point de patience.
Juste une seconde.
FCMS, le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. Donc, c'est des films internationaux, principalement, qui vont être, et quelques films québécois et canadiens, mais disons majoritairement des films qui viennent d'ailleurs. Donc, puis-je retrouver mes feuilles, je vais vous annoncer tout ça. Alors voilà, on est à quelques jours seulement du Festival du cinéma du monde qui sera, disons, présenté un peu partout à Sherbrooke, mais principalement à la Maison du cinéma au centre-ville. Je vais vous parler de quelques films qui sortent durant le festival. Certains, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, sont des films qui ont déjà été mis en salle. Certains n'ont jamais foulé les planches de nos cinémas ici. Je ne dis pas vraiment, mais en tout cas. Et d'autres, on les a jamais eu ici. Bon, un film. Dans un recoin du monde, un dessin animé japonais, la jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944 à l'occasion de son mariage pour vivre dans la famille de son mari Akure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile. Malgré ça, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. Mais en 1945, le bombardement va éprouver son courage. Si vous aviez vu le film Le tombeau des Lucioles du studio Ghibli, je sens que c'est un peu dans le même ordre d'idée. Je vais certainement aller voir ce film-là. Ça a l'air extrêmement bon. Dessin animé japonais. Sinon, après la guerre, c'est bien que je l'ai mis après l'autre, hein? Film franco-italien qui arrivera plus officiellement en salle au Québec au mois de mai, mais le festival vous permettra de le voir. Ça se passe à Bologne en 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L'assassinat d'un juge ouvre des vieilles blessures politiques entre l'Italie et la France. Marco, un ex-militant d'extrême-gauche condamné pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans grâce à la doctrine Mitterrand, est soupçonné d'avoir commandité l'attentat. Le gouvernement italien demande son extradition, obligé de prendre la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans. Sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes passées. Donc ça me parle vraiment, ce film-là aussi. Et si vous aviez manqué le film Ava en 2017, comédie dramatique française, un film d'ado vraiment bizarre, ça va être aussi au festival. Donc en tout cas, si quelque chose vous plaît parmi ces films-là ou parmi les nombreux films qui seront présentés tout au long de la semaine et la fin de semaine, qui vient, ou si vous voulez simplement vivre l'expérience du Festival du cinéma du monde à Sherbrooke, mais que vous êtes un peu perdu devant tous les choix, rendez-vous sur le site web fcms.ca et cliquez sur « Mon horaire ». Ça vous permettra de créer un compte ou de vous connecter avec Facebook et de construire votre horaire en fonction des films qui sont là, parce que des fois, il y a des conflits d'horaire entre les films. Et ça, c'est vraiment, franchement un outil intéressant. Vous pouvez après imprimer l'horaire ou carrément commander votre passe ou vos billets en fonction de vos besoins. Donc, c'est quand même pratique. On va évidemment couvrir cet événement, le festival, dès la semaine prochaine.
Oui.
Yeah. Donc, ce serait tout pour cet épisode extraordinaire de Cinébrunch. Je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices une semaine extraordinaire et je pense que je parle au nom de mes co-animateurs, co-animatrices Jim et Mélina en vous souhaitant une extraordinaire semaine.
Bonne semaine et n'oubliez pas la recette de popcorn au chocolat de Mélina.
Oui, voilà.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bye.